Et vous êtes bien dans Culte sur 48 FM. On est en studio avec Sandy aujourd'hui. Bonjour Sandy.
Bonjour Joe, bonjour tout le monde.
Et on reçoit aussi Sébastien Hannes. Salut Seb,
bonjour,
tu vas bien?
Très bien, et toi?
Très bien, merci. Et merci d'être là. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler de ton projet unique en son genre. Et puis un petit mot sur Jacadi, un nouveau lieu qui ouvre ce vendredi. Un petit événement super sympa dont on vous parlera après l'interview. Et puis Sandy, qu'est-ce qui se passe?
Et puis ce sera tout parce que j'ai mal fait mes devoirs, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc
les
invités que je pensais avoir prévus pour aujourd'hui en réalité sont prévus pour dans 15 jours. Donc aujourd'hui on va passer une heure ensemble et puis vous repasserez sur la playlist musicale de 48 FM. Voilà. Je vous tends les doigts pour me faire battre comme il se doit.
Ça arrive à tout le monde.
Moi, t'es Clément, que t'es gentil.
Ah oui, écoute, voilà. du coup, on peut commencer.
Du coup, on démarre en musique, c'est ça que tu veux dire ?
Exactement.
Et pour démarrer cette émission, on vous propose un petit peu de poésie avec Alice et moi et le titre « Filme-moi ». On se retrouve juste après.
Vous êtes toujours dans Culte sur 48 FM, on est toujours avec Sandy et Sébastien. Vous allez bien?
Oui. Ça va très très bien, oui.
Super. Seb, on est vraiment ravis de te recevoir.
Mais merci pour l'invitation.
Mais avec grand plaisir. On te connaissait déjà journaliste et amateur de littérature, prof de karaté, boucher, moissonneur-batteur. Et aujourd'hui, on te rencontre porteur de projet, chargé de projet, Je ne sais pas, pour le projet unique en son genre.
Tu as oublié Mannequin International.
Mannequin International, oui, c'est vrai.
Et Femme du Monde.
Et Femme du Monde,
c'est notre Bernard Lavillier liégeois.
Oui, c'est vrai. Et une chaîne d'ASMR aussi, avec les orteils. Oui, oui, voilà, avec ses orteils sur le micro. Là, vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment super impressionnant. Oui, donc, tu viens ici nous parler du projet unique en son genre, des lectures de drag queen à destination des enfants, et aussi un peu des parents, j'imagine. Mm-hmm. D'où est-ce que ça vient ?
Déjà, plusieurs petites précisions. Ce n'est pas mon projet, hein. C'est un projet qu'on a construit avec Edith Berthollet, qui est aussi maintenant devenue directrice des Points Culture. Et ce n'est pas que des drag queens, on parle d'artistes drag, donc on a autant des drag queens que des drag kings et des drag queers et toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas là-dedans. Comment c'est né, justement ? C'est né avec Edith, donc on était dans un train pour Namur. Et elle m'a dit, mais... Il y a un projet aux États-Unis qui est hyper intéressant, c'est des lectures pour les enfants, par des drag queens, il faut absolument qu'on fasse ça. Et moi j'ai dit oui, ça c'était la première étape, et la deuxième étape c'était que son petit garçon portait une veste rose pour aller à la maternelle, et quand il est passé en primaire, il n'a plus voulu porter cette veste rose, donc il a été... Oh oh. On s'est moqué de lui, et donc du coup, voilà, l'un dans l'autre, on a construit ce projet, on a fait une première il y a presque 5 ans, et depuis ça continue à vivre.
Trop bien, et ça tourne assez bien. Et est-ce que tu peux préciser peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas ou peu le drag, la différence entre drag queen, drag king, drag queer, et surtout qu'est-ce que ça veut dire queer ?
Alors moi j'ai envie de vous poser la question à vous en fait, comment est-ce que vous définiriez, c'est la question qu'on pose dans les lectures, comment est-ce que vous définiriez une drag queen ou un drag king ?
Pour moi, c'est quelqu'un qui joue avec le genre, qui surinterprète un genre. Comment dire, en jouant avec les codes du théâtre, un peu en surinterprétant des traits qui sont masculins ou féminins, ou pas forcément en fait. Il y a aussi des drag queens dans des délires galactiques, tout ça, des trucs assez fun, ouais. Pour moi, c'est interpréter un personnage des pieds à la tête, une nouvelle personnalité, et intervenir dans le quotidien, dans des scènes, dans des bars, dans des lectures, dans des actions, vraiment être un personnage très théâtral, hors pièce de théâtre, dans la vie, à la rencontre directe du public, et interroger du coup les gens sur plein de thèmes sociaux et sur eux-mêmes.
C'est un bon résumé, je trouve.
Si je me suis donné.
Tu t'es donné. Non, si je peux en fait en résumer, c'est une drag queen, c'est simplement une personne, que ce soit, c'est principalement des garçons, mais aussi des filles qui peuvent faire du drag queen, qui vont utiliser les stéréotypes dits féminins. Le drag king, c'est l'inverse, on va jouer avec les stéréotypes dits masculins. Et le queer, c'est mélanger les deux. Voilà, en gros, c'est ça. Et le mot queer. Le mot queer, on a tous et toutes nos définitions du mot queer. Moi, je pense qu'on peut revenir à l'étymologie du mot queer, mais c'est peut-être plus personnel. Moi, je pense que c'est une manière de montrer qu'on fait partie d'une communauté. C'est montrer qu'on a envie de faire bouger les choses, que ça soit par ce qu'on est, par ce qu'on fait, par comment on s'habille. Je pense que pour moi, c'est ça, en tout cas.
Voilà. Ok, super. Ouais, moi, je pense aussi. En effet.
C'est plus... ça englobe tout ça, je dirais.
Oui, oui, oui. Sandy, qu'en penses-tu ?
De la définition de queer ou bien...
Ouais.
Alors, queer, je vous avoue que je n'aurais pas osé la donner moi-même, tout simplement parce que j'ai encore cette notion de pas forcément tout comprendre dans les codes, etc. Pas que je n'y adhère pas, mais peur de mécomprendre, tout simplement, les enjeux qu'il y a derrière. Par contre, pour ce qui est plutôt drag, etc., avec mon vieil âge, je vais le dire comme ça, je pense que mes premières notions, elles me viennent un peu de ce côté du cabaret. C'est pour ça que moi, le premier mot, c'est spectacle. Spectacle sans revendication ou autre, au départ, vraiment juste ce côté spectacle. Et puis effectivement, j'allais parler de caricature, mais caricature avec le sens bienveillant du terme. Vous parliez d'exacerbé, etc., certains traits, ça allait dans ces notions-là aussi. Mais en tout cas, pour moi, c'est un show, c'est des paillettes, on m'en met plein la vue. Et je sors de moi-même et de mon quotidien l'espace d'une demi-heure, une heure, deux heures. Voilà, spectacle.
Trop bien.
On a bien fait le tour là.
Ouais, il me semble. Et alors, tu le disais, aux États-Unis, c'est assez développé. À Montréal aussi, c'est aussi très développé. On a toujours l'impression qu'à Montréal, ils ont une longueur d'avance sur nous. Et du coup, je me dis, comment est-ce que ça a été reçu ici à Liège de développer ce projet, aussi bien par le public que par finalement les drag queens et les drag kings à qui tu as fait appel. Comment est-ce que les gens ont réagi à ce premier « Tu viendrais pas lire des livres à des enfants ?»
Ben en fait, les premières lectures voient le jour en 2018 aux États-Unis, donc c'est un peu la marche à suivre. Ça commence aux États-Unis, ça arrive dans le Canada anglophone, Canada francophone, et puis ça passe en France, etc. Et comment ça a été reçu ici ? Ben majoritairement, très positivement. Très honnêtement, ça a toujours été reçu très positivement. Les seuls moments où c'est reçu négativement, c'est évidemment les réseaux sociaux. On sait que c'est la foire au boudin, donc on y voit tout, n'importe quoi, on y dit tout et n'importe quoi. Et souvent, les détracteurs et détractrices, ce sont des personnes qui ne sont jamais venues aux lectures. Donc qui imaginent qu'on est des vampires, qu'on mange des enfants... Et je vais vous épargner les termes que je lis sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de les dire ici. Mais voilà, on lit tout à n'importe quoi. Ça leur fait peur, mais ils veulent pas assister aux lectures. On les a déjà invités, mais ils veulent pas.
Si je peux me permettre un commentaire, c'est ça qui est effarant sur les réseaux sociaux. C'est que ces mêmes personnes qui vont dire « oui, bon, d'accord, on admet les thérapies de conversion et compagnie, c'est bizarre », envisagent ce type de lecture finalement un peu comme des thérapies de conversion. Attention, on va sucer votre âme et modifier vos enfants. C'est complètement effarant.
Alors, petite anecdote avec ça, ce qui revient souvent sur les réseaux sociaux, c'est « ah, mais si vous faites des lectures avec des drag queens, nos enfants vont se transformer en drag queens ». Ok. Mais ça veut dire que on travaille maintenant avec une artiste qui s'appelle, enfin qui a le nom de son personnage, le paquet de frites. Vous me voyez venir. Ça veut dire que si on fait une lecture avec une artiste qui est habillée en paquet de frites, est-ce que vos enfants vont devenir des paquets de frites ?
Évidemment.
Donc on essaye de les avoir par l'absurde et là ils savent plus quoi répondre. Donc en fait les enfants ils s'en fichent que ça soit un dinosaure, une girafe ou une drag queen. Ils sont émerveillés au début et puis après et puis c'est un personnage en fait. C'est ça qu'on oublie, c'est que la drag queen est d'abord un personnage artistique, c'est un peu l'équivalent d'un clown en fait. Et on oublie ça, et on associe ça souvent au cabaret, et on garde ça en tête, en fait c'est beaucoup plus que ça, c'est bien plus que ça.
Trop bien, et du coup ça se fait où ? Est-ce que c'est fait d'abord dans des librairies vraiment qui sont habituées aux lectures ? Est-ce que ça arrive dans des écoles carrément qui demandent, qui font ce travail du coup de tolérance, de diversité, d'accueil, de drag queen, voilà le genre, c'est quoi les enfants ? C'est quoi le chemin qui s'est établi ?
En fait... Je pense qu'il y a d'abord eu les... Il y a trois pôles, je dirais. Il y a d'abord les bibliothèques, évidemment, qui ont l'habitude de faire l'heure du compte avec des bibliothécaires. On a des demandes de toutes les bibliothèques du pays, que ce soit principalement du côté francophone. On a aussi des demandes du côté néerlandophone, mais ça, on en parlera peut-être après. On a des demandes des lieux culturels, que ce soit des centres culturels, des théâtres. En fait, tout lieu qui a envie de nous accueillir, on est prêt à faire la démarche, même s'il faut réinventer le projet pour un nouveau public. On peut le faire. Donc il y a les lieux culturels et puis il y a il y a des centres fermés qui ont fait appel à nous, il y a des centres sportifs, il y a des prisons. Ça va très loin en fait, ça va vraiment très loin dans les demandes. Et dès que ça concerne, comme je le disais, un nouveau public, on attache énormément d'importance à discuter avec les professionnels du milieu parce que parler à des enfants, c'est une chose, parler à des ados, c'est une chose, mais parler à des personnes qui sont incarcérées, parler à des personnes à des maisons de repos, si on va le faire l'année prochaine, parler à des personnes handicapées ou déficientes, on ne peut pas aller là, faire une lecture et puis partir. C'est pas possible. Donc il y a vraiment un travail en amont à faire et un suivi à faire après. Donc voilà, tout lieu qui a envie de nous accueillir, on vient. Avec grand plaisir.
Trop bien. Et ce travail, du coup, il est fait avec des assistants sociaux, avec des personnes internes vraiment au projet. J'imagine que c'est pas, comme tu dis, une réservation de lecture, vous y allez, vous lisez, voilà, tu y vas d'abord, tu rencontres les gens, tu parles avec eux, tout ça, la drague ou le drague est briefé. Comment ça se passe ? Il y a un accompagnement qui est fait avant, pendant et après ?
En fait, on a la chance d'être un projet de la Maison Arc-en-Ciel de Liège. Donc, du coup, là, c'est la force qu'on a, c'est d'avoir une association, c'est ce qui se passe... Rarement, en tout cas à ma connaissance, même pas du tout, c'est-à-dire que principalement ce sont des artistes qui font des lectures. Et c'est très bien, ça se passe bien. Au Canada, en tout cas, Barbada qui fait ça, qui est prof de musique, elle a déjà ce côté pédagogique, mais elle n'a pas le filtre de l'association entre les deux. Ici, on a la chance et le luxe d'avoir l'association qui fait filtre entre les deux. Et la Maison Arc-en-Ciel, c'est bien sûr des psychologues, c'est des accueils, c'est un endroit où on peut renvoyer les personnes qui nous poseraient des questions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus spécifiques. Donc si la question se pose, si c'est pas uniquement des questions par rapport à la forme d'art, du drag, etc. S'il y a des questions qui se posent vraiment par rapport à la transidentité, des questions plus psychologiques, évidemment on n'est pas à même ni de répondre au moment de la lecture, pas sur place en tout cas. Donc on est obligé de renvoyer les gens vers la Maison Arc-en-Ciel ou vers d'autres associations qui sont plus à même de répondre. Donc ça, c'est un travail qui se fait après la lecture. Mais en amont, on travaille avec d'autres associations, on travaille avec la Ligue des Familles aussi, sur les écoles par exemple. Donc là aussi, c'est une réalité. On fait à la demande et selon un peu l'agenda, on fait des lectures en école. ça n'a rien à voir avec une lecture en bibliothèque. Là, c'est souvent des lectures qui se passent sur 3-4 mois. On doit faire des rencontres en amont avec les professeurs, on doit faire la lecture, on doit faire le suivi après. Donc, on ne vient pas faire du show, en fait. On vient vraiment faire un travail de longue haleine et c'est pas tout simple. Bon, c'est vraiment réfléchi.
Et pourquoi justement décider de scinder, entre guillemets, un petit peu les deux ? Vous disiez qu'on ne répond pas forcément sur le moment aux questions, on renvoie plutôt...
Parce qu'il y a ce... Tu sais, en fait, la lecture, comment ça se passe ? C'est qu'on fait la lecture, on pose quelques questions par rapport au livre ou au texte qu'on lit, et puis après, on a un moment d'échange qui dure parfois soit 15 minutes, soit une heure. Et donc là, il y a plein de questions, des questions qui sont très directes, des questions qui sont très réfléchies, parfois sur l'avortement, sur des choses. Là, c'est avec les ados, évidemment. Les réponses vont se faire par rapport au bagage des artistes, par rapport à mon bagage personnel, et moi j'interviens dans l'animation comme les artistes interviennent dans l'animation. Maintenant, on atteint souvent un degré de réponse qui peut pas se on peut pas répondre comme ça de but en blanc, surtout où il y a du public, etc. Donc c'est souvent des personnes qui viennent nous trouver après la lecture et qui nous posent des questions plus intimes, des familles qui viennent nous poser des questions, qui nous disent merci, qui nous demandent des conseils sur des livres, qui nous demandent eux-mêmes des questions, enfin qui nous demandent d'être envoyés vers des associations. Donc le cheminement, c'est ça en fait. C'est pas qu'on peut pas le faire, c'est que la manière dont les questions nous arrivent font que c'est pas un truc, on peut pas répondre de but en blanc. On peut prendre le temps de discuter 15, 20 minutes, une heure avec les gens, mais il faut vraiment, sur des questions plus spécifiques, qu'on puisse avoir des professionnels qui soient derrière pour y répondre. Sinon, on a le droit à la maladresse, bien sûr, mais sur ces sujets-là, qui sont très touchy, il faut pouvoir y répondre de manière très spécifique.
Ok, donc c'est vraiment un travail aussi de médiation, de mise en lien, mise en contact, et un travail de réseau aussi, de recherche finalement, de toujours plus de partenaires qui peuvent vous aiguiller vers des sujets précis, et au-delà du travail sur les questions de genre, tout ça, c'est sur la différence, c'est sur plein d'enjeux sociaux.
C'est sur les discriminations en général. On peut parler du genre, évidemment on parle du genre, mais on parle aussi d'écologie, on parle de grossophobie, en fait... On a parfois des festivals, des lieux culturels et autres lieux qui organisent des événements sur des thèmes bien spécifiques. Donc nous, on adapte les lectures en fonction de ça. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais ma phrase était super intéressante.
Ça, c'est très bien.
C'était bien parti, mais je ne sais plus où je veux aller. Mais voilà, c'est... Sur tous les sujets.
Il y a plein de festivals et trucs qui vous invitent.
Ouais. Okay. Et donc, par rapport aux discriminations, bah oui, elles ne sont pas uniquement par rapport au genre. Elles sont beaucoup plus vastes que ça. Et on essaye d'adapter, encore une fois, que ce soit en termes de journée mondiale, etc. On a fait des lectures pour la journée mondiale du droit des femmes. Enfin voilà, tout ça est possible, tout ça se construit au fur et à mesure et le projet grandit au fur et à mesure. Mesure des rencontres qu'on fait.
Trop bien, excellent. Et sur ces belles paroles, je propose que on écoute ta première chanson qui est Intimidade ou Intimidade, je ne sais pas comment on dit, de Liniker ou Liniker ou Liniker.
Liniker.
Liniker. Presque, bientôt.
Là, il va falloir que tu m'appelles un petit peu parce qu'on a des problèmes de
Spotify. Qui est encore un petit peu.
Mais qui est Liniker ?
Je réalise. Mais ben voilà, quelle bonne question.
Exactement. Pourquoi ce choix ?
On sent qu'il était journaliste en celui-ci.
Oui, oh là là, il connaît tout. Il voulait carrément s'interviewer lui-même, madame et monsieur, quand même. Il m'a dit t'inquiète, si t'es en retard, je commence tout seul.
Donc Liniker, une artiste trans brésilienne, chanteuse, que j'ai découvert via une de nos artistes qui s'appelle Vaca Profana et qui a fait un duo par vidéo interposée avec cette chanteuse à la Maison Arc-en-Ciel. Et maintenant, je l'écoute et je trouve ça vraiment très bien. Donc j'espère que vous aussi, vous allez aimer son chant.
Vem me visitar de madrugada, coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fica, eu finco afeto nesse peito. Três dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Coloca tua mão em mim que eu deixo. Sem pressa você chega e fique, eu finco afeto nesse peito. Três dias sendo leito, mamando no peito desse calor que é bom. Sei que eu tenho dom de dar mergulho com olhar. Pega e dirige pra casa no dia também, que o nosso carinho não dói em ninguém. Sou tua amiga, amante, serpente, meu doce bem. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim. Na estrada, no trem, de Berlim a Belém. Soma, mas não some, fica aí, a gente dorme. Incenso a casa com alecrim, cê segue a vida, eu sigo assim. Na estrada, no trem, de Berlim a Belém. O que é que é tirar um tempinho pra ficar mais perto de mim?
Quelle voix.
Ouais, incroyable.
Elle parlait de toi, Joe.
Oh.
C'était ton petit raclement de gorge qui nous a tous ébloui.
Voilà. Petit courant d'air, tout ça, au printemps froid. Et gros molard.
Je t'en prie.
Oh, pardon. Et donc, c'était Liniker Intimidade. Vous êtes toujours dans Culte sur 48FM. On est toujours avec Sandy et Sébastien Hannes qui nous parlent de Unique en son genre. J'ai encore fait ma voix de présentateur Colruyt avec Sébastien qui habite Liège. Et donc... Et donc, nous parlions de lecture drag et du champ des possibles, des sujets abordés durant ces lectures. Et moi, je voulais vous demander, est-ce que, on a parlé tout à l'heure des parents et des gens qui détractent un peu les lectures, qui ont peur. J'ai l'impression qu'on voit dans les médias de plus en plus une montée comme ça de haine et de colère, et de plus en plus aussi une montée de drag queen, j'ai envie de dire, ouais. Avec RuPaul Drag Race Belgique cette année, qui a eu un super grand succès, la saison 2 qui arrive bientôt. J'ai l'impression que ça se démocratise un peu, que ça intéresse de plus en plus de monde, et que du coup, les détracteurs sont aussi de plus en plus nombreux. Comment vous le ressentez, ça? Comment vous le vivez dans le monde des lectures drag?
Bah, tu sais, dans les années 90, quand les drag queens ont été à nouveau à la mode, ça a été un peu la même chose aussi, puis ça a disparu, puis c'est revenu, et là ça revient, ça est revenu avec RuPaul, évidemment, mais c'est vrai que là, principalement, encore une fois, sur les réseaux sociaux, on voit énormément d'actualités drag queen, des détracteurs aussi et des détractrices qui s'opposent évidemment à tout ça. Mais comment on réagit, nous? On essaye de pas réagir, en fait. On a une ligne directrice, c'est de jamais réagir sur les réseaux sociaux.
Oui, non, jamais.
Parce que ces gens cherchent le conflit, en fait. Mmh. Ces gens cherchent vraiment à discuter, en fait. C'est de l'ordre de l'idéologie, c'est-à-dire qu'ils croient en ces choses-là comme ils croient en Dieu. Et donc, aller à l'encontre de ceux qui croient, ça n'ira jamais, en fait. Mmh. Ils y croient dur comme fer, donc on ne leur fera jamais changer d'avis. Et c'est pour ça qu'on les invite chaque fois à venir aux lectures, pas pour leur faire changer d'avis, mais pour qu'ils discutent avec nous. On dit toujours qu'on prêche des convertis, mais... Moi, je leur dis, venez une fois discuter avec nous, et si vous êtes contre, mais venez vous exprimer. Tant que c'est fait dans le respect et la bienveillance, il n'y a aucun problème. Mais voilà, ils croient à des choses, on en discutait tout à l'heure en antenne, mais ils croient aux extraterrestres, ils croient que la Terre est plate, ils sont complotistes. Dans le pire des cas, ils sont d'extrême droite. Et tout ça se fait un micmac, un globi-boulga assez dégueulasse. Et voilà, on se confronte à ça. Maintenant, j'ai l'impression, entre guillemets, entre beaucoup de guillemets, que ça se calme un peu. Ouais. Quand on voit ce qui s'est passé encore il y a quelques semaines aux États-Unis, ça a atteint des proportions extrémistes très, très, très dangereuses.
Oui, c'est ça, des manifestations, c'est
voilà,
ça, carrément.
C'est des manifestations, c'est des néo-nazis, c'est des personnes armées. Mm. Voilà, on n'en est pas là du tout ici en Belgique. Heureusement, on a la chance de le faire à Liège. Heureusement, on a la chance de le faire en Belgique.
Ouais.
Mais,
je crois qu'en France, ils y sont... Alors, ils sont pas loin, quoi. Il y a quand même des petites manifs de parents.
En France, mais là, c'est aussi quelque chose d'une extrême droite très française, en fait.
Oui,
c'est le parti d'Éric Zemmour, c'est le parti de Marine Le Pen, qui sont finalement très intelligents, qui réagissent très peu par rapport à ce qui se passe dans la société, et qui laissent faire les choses, qui laissent vivre ce vivier-là de personnes qui sont. Et finalement, j'arrive parfois à. J'arrive pas à avoir des choses, enfin, à avoir quelque chose contre eux, parce que, enfin, si, évidemment, mais je veux dire, je vais pas aller les attaquer sur les réseaux, parce que je trouve ça assez triste. C'est triste de les voir réagir sur les réseaux sociaux, de voir à quel point ils sont paumés, en fait. Je pense qu'ils sont énormes. Et après, il y a des gens qui sont vraiment extrémistes et dangereux, hein, bien sûr. Mais oui, en France, c'est déjà arrivé. Ils ont fait des lectures, une des premières lectures qu'il y a eu en France à la bibliothèque Louise Michel. Ils ont reçu un pavé dans la vitrine, donc. C'est toujours la crainte qu'on a, c'est de la personne qui est poussée tellement à l'extrême par le quotidien, de voir au quotidien des actualités sur le genre, sur les drag queens, etc., qui, poussée à l'extrême, va agir, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on refuse de faire des lectures en extérieur, parce qu'on ne sait pas gérer les lectures en extérieur. Enfin, c'est difficilement gérable. Donc oui, on voit des choses qui viennent de France, on voit des choses qui viennent des États-Unis. Encore une fois, on en est très loin, heureusement. Mais une fois qu'on rencontre en vrai ces gens-là, physiquement, qu'ils existent vraiment, ça veut dire que, même s'ils sont 8 ou 9, hein, mais avoir sur une lecture, et c'est rare, mais ça arrive, c'est déjà arrivé deux fois, mais avoir des gens qui physiquement ne tolèrent pas que tu existes, que ta forme d'art existe, que l'homosexualité existe, c'est dramatique. C'est hyper flippant de voir qu'il y a des personnes qui existent vraiment, quoi. C'est palpable, quoi. Il y a vraiment des gens qui ne veulent pas que tu existes. Et ça, c'est flippant quand même. Ouais.
Comment on fait pour se prémunir au quotidien quand on travaille pour des structures comme la Maison Arc-en-Ciel? Donc déjà en tant que citoyen, en tant qu'homme, mais encore plus quand on travaille dans ce type d'association, se prémunir de cette violence verbale et physique, parfois quotidienne pour certaines?
Mais je pense qu'il faut pas. C'est un peu comme quand on est hypochondriaque et qu'on va voir sur Doctissimo. Il faut pas passer son temps. Et je dis ça, mais je le fais. Hein, il faut pas passer son temps à aller voir tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. C'est voilà, ils disent beaucoup de bêtises, hein, beaucoup de bêtises. On s'en préserve en n'allant pas lire tout ça. Maintenant, on met une priorité au combat, au vrai combat, aux gens qu'on peut aider, qui viennent nous demander de l'aide, qui viennent nous dire merci, qui viennent discuter avec nous. Ça, c'est important. Le reste. Bah, dire que ça nous impacte pas, c'est pas vrai. C'est pas possible que ça nous impacte pas parce qu'ils utilisent parfois des termes qui sont assez violents. Ils sont pas violents physiquement pour le moment et touchant du bois. Et j'espère qu'ils ne le seront jamais ici en Belgique et ailleurs. Mais les mots sont durs. Les mots sont durs pour nous, bien sûr, mais on est préparé à ça. On a des bagages qui font qu'on peut se préparer à ça. Mais moi, je me mets à la place des bibliothécaires, des familles, des enfants. Et quand on voit des affiches sur des bibliothèques et quand on rentre à la maison et qu'on pose la question à ses parents, ça, c'est dur. C'est dur en tant que parent de répondre à ces questions-là, parce qu'on est démunis face à ça. Et moi, c'est ça qui m'exaspère, ouais, à fond. C'est ça qui est le plus violent. Limite, le reste, c'est notre boulot, quoi, entre guillemets. Mais pour les familles, pour les ados qui vivent ça au quotidien, qui se font agresser, etc., là, c'est dramatique, oui, complètement.
Est-ce qu'il y a des formations pour les familles, par exemple, pour apprendre à... Enfin, des outils qui existent, qui seraient proposés par la MAC, peut-être, ou par d'autres associations avec lesquelles... Tu travailles?
Il y a plein d'associations. Je pense au gris, je pense au genre pluriel qui font vraiment de la formation, que ce soit le gris en milieu scolaire, que ce soit le genre pluriel qui va en entreprise, qui fait des formations, etc. Là, on est vraiment dans un cadre formatif, donc vraiment sur des choses très cadenassées, entre guillemets, et pas dans le sens négatif du terme. Ici, ce qu'on essaye, c'est de proposer de pas rentrer par la porte, mais de rentrer par la fenêtre. C'est-à-dire que pour les personnes ou pour les lieux qui n'auraient pas envie, justement, ou qui ont peut-être une crainte ou qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir quelque chose de très formatif, nous, ce qu'on propose, c'est simplement de faire une lecture. Voilà, on leur lit des textes et autour de ça, on discute. C'est vraiment un moment d'échange. On n'est pas en train de dire, enfin, comment dire, de prêcher une bonne parole. On fait pas du porte-à-porte, hein, pour ne pas citer qui que ce soit. Mais voilà, c'est vraiment un moment d'échange. On n'est pas dans une... C'est pas quelque chose de formatif, c'est vraiment un moment pédagogique où on discute ensemble et enfin, la majorité du temps, je vais dire tout le temps, c'est eux qui nous posent des questions, c'est eux qui ont vraiment besoin de dire plein de choses, que ce soit des questions, et parfois des gens qui sont à des lectures et qui ne sont pas d'accord. Et ça, c'est intéressant de pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord.
Tu as le souvenir comme ça d'un ou deux échanges
Oui, on a fait une lecture à hâte il n'y a pas très longtemps. Mais après, c'est toujours des gens qui sont très bienveillants. Parce que peu importe leurs origines, peu importe leur culture, il y a le respect est là. Dans leur culture, le mot respect est là. Donc, ils sont très respectueux dans leurs questions. Ils sont très bienveillants, mais ils ont le droit à cette maladresse, justement. Et donc, ils ne sont pas d'accord avec tout. Ils sont là en train d'apprendre avec les autres personnes qui sont là, avec le public qui est là, un nouveau langage. Et donc, ils le disent, voilà, peut-être qu'on va mal faire, mais on a besoin de poser cette question de manière très brute. Mmh. Ils le font. Et voilà, nous, on y répond. On n'est pas là pour les accuser et leur dire, ah ben non, c'est pas bien ce que vous faites, il ne faut pas, surtout pas dire ça. Non, ils ont le droit, justement, d'être maladroits, de nous poser des questions, de ne pas être d'accord, surtout de ne pas être d'accord. Mais on est là pour leur répondre et pour leur montrer que, encore une fois, on n'est pas des vampires.
Trop bien. Et justement, c'est hyper enrichissant de voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord et qu'on peut en discuter.
Mais bien sûr. Mais il faut que la discussion soit intelligente. Encore une fois, il faut qu'elle soit faite dans la bienveillance, dans le respect, et que les questions soient un minimum intelligentes, ou en tout cas qu'il y ait une envie de réfléchir par rapport à ça. Les détracteurs et détractrices, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Enfin, allez voir sur les réseaux sociaux, il y a des moments où c'est très drôle, quoi. Mm-hmm. Enfin, là, pour l'anecdote, si je peux, il y a une dame, il n'y a pas longtemps, qui a partagé un nuage au-dessus de l'Etna. Un très beau nuage au-dessus de l'Etna. Juste avant, elle avait partagé une vidéo sur les extraterrestres. Et on se rend compte, en regardant son fil d'actualité, que voilà, elle passe elle a peur un jour des drag queens, et l'autre jour, elle a peur des extraterrestres. Et elle pense qu'un nuage au-dessus de l'Etna, c'est un vaisseau extraterrestre. Ils ne sont pas méchants, mais c'est pénible, quoi.
C'est fatigant.
C'est très fatigant, c'est très énergivore.
On imagine bien. Et alors, pratique, une lecture drag, comment ça se passe?
Comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs publics. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'abord les enfants. Donc, on fait des lectures pour les 3-12 ans. Là, on fait des lectures de contes. Donc, on parle de poules qui font la révolution dans la basse-cour. On parle de poneys qui ne sont pas des grands chevaux musclés et virils. On parle d'un homme fort dans un cirque qui fait de la couture en secret. Enfin, voilà, comme vous voyez, ce n'est pas des sujets ultra, ultra violents. Hein. Quoique la manif dans la basse-cour, il y a un peu de violence quand même. Ça reste une manifestation en partie féministe, mais voilà, les sujets des contes, c'est ça, en partie. Pour les ados, on lit plutôt des textes, quand je dis texte, c'est au sens large, c'est des tribunes dans la presse, c'est des textes parfois qui viennent des artistes. Pour la petite anecdote aussi, on a une artiste, Sandra Van de Kamp, qui a retrouvé la lettre qu'elle avait écrite à son papa pour faire son coming out. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça.
Très
aussi.
Fort.
On a travaillé avec les maisons de jeunes de Jupy et de Saint-Nicolas, la maison arc-en-ciel. On a demandé aux jeunes de ces deux MJ-là, qui écrivent divinement bien, s'ils ont des textes, qui soit eux viennent les lire, ou alors que si eux ne veulent pas les lire, les artistes peuvent les lire. Et donc on a eu la chance de pouvoir partager avec eux ces textes-là. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est des textes de jeunes qu'on rencontre, qu'on va lire ici à Liège, qu'on va lire en Belgique, et que quand on va aller faire des lectures en France, au Canada, bah on va lire leurs textes. Et donc se dire que la personne de la maison de jeunes de Jupy ou de Saint-Nicolas qui nous a offert ce texte, et ben maintenant on lit le texte en France ou au Canada, c'est quand même super cool.
On te sent un peu bouleversé, le mot est peut-être fort, mais on te sent en tout cas très émotionné par tout ce que tu nous
bien
racontes.
Bien sûr, évidemment. Bah oui, c'est émouvant. C'est quelque chose de très, comment dire, c'est très palpable en fait de voir ces gens ces jeunes qui en MJ sont en questionnement sur leur genre, sur leur sexualité. Qui se font agresser aussi, hein, c'est des réalités, et qui vivent ça au quotidien. Alors nous, on arrive avec nos paillettes et nos talons pour grossir les traits, mais les drag artistes servent aussi à ça. C'est des personnes qui sont là, qui ont un bagage personnel, émotionnel, moi aussi, et on discute avec ces gens-là, et c'est super important. Enfin, c'est des cadeaux qu'ils nous font, en fait. C'est des énormes cadeaux du petit bout qui a 4-5 ans, et en passant par l'ado et la personne âgée qui vient nous trouver, c'est des cadeaux à chaque fois. Chaque lecture est différente, et il y a des moments où... Enfin, pas des moments, il y a chaque fois de l'émotion. Les artistes, il suffit qu'ils soient un peu plus fatigués, un peu plus sensibles, etc. On voit aussi l'émotion dans les yeux et dans la parole des artistes. C'est, et on se faisait la réflexion aussi, c'est que c'est la première génération d'artistes, de drag artistes, qui, enfin une des premières générations, enfin, je pense même la première, qui va découvrir le monde du drag via les lectures. Donc pas commencer par le cabaret et puis faire des lectures, c'est des artistes aussi qui commencent par les lectures et puis qui après se lancent dans le cabaret. Qu'est-ce que ça va apporter au monde artistique des cabarets d'avoir des artistes qui ont commencé par la lecture et puis qui vont faire du cabaret? On en reparle dans 4-5 ans.
Le rendez-vous est pris.
Excellent.
Je t'ai perdu là.
Bah ouais, j'ai oublié ma question, mince alors. Non, je voulais dire qu'on a vu le week-end passé un événement drag queen au Reflector.
Oui.
Moi je trouve ça assez incroyable, même carrément génial. Reflector qui est un lieu quand même hyper connu de tous les liégeois et liégeoises. Et avoir cet événement drag dans ce lieu hyper populaire.
Mais tu sais ce qui est encore plus incroyable, c'est que ça n'a pas été, il me semble, annoncé comme l'événement. Justement, ça rentrait dans une programmation tout à fait classique et c'est encore plus appréciable.
Oui. Tout à fait.
Ben, j'ai envie de dire enfin, parce qu'il y a une immense culture du cabaret à Liège. Il y avait beaucoup de cabarets avant. Il y avait la Mama Roma, il y a eu la Taverne des Arts, il y avait plein de bars LGBT qui ont disparu, qui disparaissent. Les cabarets, on n'en parle plus. Est-ce qu'un cabaret est encore viable ici à Liège? Vous avez 2 heures, mais en parlant avec les artistes, on se rend compte que si demain on ouvre un cabaret, comment on fait en fait? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on sait payer les factures? Est-ce qu'il y aura du public au rendez-vous? Peut-être 1 mois, 2 mois, et après, qu'est-ce qu'on fait? La Mama Roma, ça a duré 39 ans. C'est autre chose, quoi.
C'est balèze, quand même.
Donc là, ce qu'on voit, c'est des soirées, des cabarets qui... Enfin, plutôt des soirées, peut-être pas uniquement du cabaret, mais en tout cas des soirées qui naissent à droite à gauche. Il y en a énormément à Bruxelles. Il n'y en avait pas à Liège. Enfin, il y en a une au Reflector. Et comme tu disais, le Reflector, c'est pas n'importe où. C'est vraiment un endroit dit grand public. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que... ça, je vais pas dire que ça se démocratise, mais en tout cas que ça... On n'en fait pas tout en foin. Il y a du monde qui est là au rendez-vous, ils viennent voir un spectacle de grande qualité, tant mieux, j'ai envie de dire.
Mais est-ce que malheureusement on peut pas un peu craindre ce que je vais appeler dans ce contexte l'effet de mode? C'est-à-dire qu'on s'empare d'une thématique dont on parle énormément pour faire son beurre en réalité.
Bien sûr qu'il y a un effet de mode, évidemment, enfin tout fonctionne un peu comme ça aussi. On se le cache pas, hein, sur les lectures, il y a aussi un effet de mode. Si on a autant de visibilité, c'est aussi parce que l'artiste drag est à la mode, bien sûr, mais si on peut faire de l'effet de mode une force, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et je pense que des soirées comme celle du Reflector, c'est justement faire de cet effet de mode une force. C'était mis en tout petit, hein, que c'était des artistes de Drag Race Belgique. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'utilise pas une émission télé grand public pour ameuter des gens. Bien sûr, il y en a qui ont été connus via l'émission, mais c'est pas que ça. Donc c'est des gens qui sont curieux, c'est des gens qui sont intéressés par des formes d'art différents. Donc ça génère tout ça, c'est pas uniquement un effet de mode. Et c'est ça qui est intéressant, je pense.
Oui, en effet, il y a vraiment un désir, une envie d'avoir plus d'événements drag, j'ai l'impression, parce que la communauté est là. Moi, j'étais au show des Mackerels à la zone, c'était bourré, massacre.
Oui, bien sûr.
C'était vraiment, j'ai eu du mal à placer une chaise dans un tout petit trou comme ça, et c'était super bien. Et les gens réagissaient à fond, tout le monde hurlait comme des possédés, franchement, c'était.
Et il faut pas croire que c'est des jeunes qui ont entre 18 et 20 ans. Hein.
Ah non, il y avait tous les âges, tous les styles.
Tous les âges. C'est des gens qui ont connu des cabarets d'avant, qui viennent voir ce qui se fait maintenant. Après, on aime ou on n'aime pas. Voilà, il y en a la Mama Roma, c'était plus punk, c'était un truc beaucoup plus alternatif, hein. Ça, c'était complètement dingue, hein. Moi j'ai fait les 5 dernières années de la Mama, j'aimerais pouvoir un jour faire vivre une heure de Mama Roma à quelqu'un, c'était juste dinguissime, mais ils n'avaient rien inventé. Ce qu'on fait aujourd'hui, on n'a rien inventé non plus, mais on se le réapproprie. Et je pense aussi à beaucoup d'artistes drag qui ont ce discours aussi, et je pense à Quen qui n'est pas juste artiste drag par effet de mode, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Il y a une envie d'aller chercher ce qui s'est fait avant, de voir comment est née cette forme artistique. C'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années. Donc voilà, il y a différents artistes. Il y en a qui sont des nouveaux artistes, il y a des vieux de la vieille. Je pense à... Enfin, je ne sais pas si elle m'entend, mais j'espère qu'elle ne m'engueulera pas pour ça, Peggy. Enfin, voilà, Peggy, elle a connu la Mama de bout en bout. C'est une institution. C'est un peu la Sonuma de la drag queen, quoi. C'est impressionnant le vivier culturel qu'il y a là. C'est, j'arrive pas à trouver mon mot, c'est le patrimoine, voilà. C'est un patrimoine artistique liégeois qui est malheureusement pas mis en valeur, qui devrait l'être. À Bruxelles, ils commencent pas à le faire dans les musées. Il y a une réflexion dans les musées pour montrer les robes des artistes drag, par exemple. Pour l'anecdote aussi, les premières sources, les premières archives qu'on a du monde LGBT à Bruxelles, c'est des plaintes. C'est les premières plaintes.
Okay.
Et en fait, il n'y a pas d'autre chose.
Une affichette.
Mais les plaintes de quoi ?
Les plaintes que les premières personnes LGBT allaient faire à la police pour agression.
Ah, okay.
Donc, c'est les premières choses qu'on trouve, en fait. Et c'est quand même un peu triste parce qu'il y a du cabaret, il y a de l'artistique, il y a de l'associatif, il y a tout ça, en fait. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut mettre en valeur, que ce soit à Liège, à Bruxelles et dans d'autres villes. Il y a un vivier artistique LGBT dans toutes les villes.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une fondation à créer quelque part, une petite idée, graine à planter comme ça ? Est-ce que quelqu'un veut lancer un fonds de la drag queen et lancer son musée ?
Et pourquoi pas ?
Ah oui, mais complètement, mais je suis complètement sérieux.
Même au musée de la vie wallonne, c'est du patrimoine.
Oui,
on est dans du patrimoine. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'exposerait pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de la Mama Roma ? Il y a plein de choses qui existent. Allons-y.
Et c'est extrêmement politique, drag. C'est le discours de Quen pendant l'émission et encore maintenant et tout le temps, je pense, était hyper important. Et tous les discours de toutes les dragues et tous les dragues sont hyper importants. Enfin, se poser sur scène avec autant de thématiques sur soi, c'est complètement dingue.
Même
sans le vouloir, oui, exactement.
Je pense que simplement, par le fait d'être artiste drag, ils sont politisés, bien sûr.
Ouais, complètement. Et je propose qu'on s'écoute ton deuxième choix de chanson, c'est Zao de Sagazan, Tristesse. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix ? Parce que j'ai découvert par le pire des hasards Zao et je trouve que c'est vachement bien, ça me parle beaucoup. Elle devait faire la première partie de Stromae, mais il a annoncé qu'il annulait toute sa tournée, donc c'est trop dommage pour Zao. Mais elle était au New Botanique il y a une semaine et vous allez entendre, c'est trop bien.
Cool.
Mais qui est Zao de Sagazan ?
C'est le running gag de cette émission.
Une artiste française qui a de très beaux textes, qui a
de
très beaux visuels.
Est-ce que c'est Zao qui chantait ? C'est chelou ?
Pas du tout.
Non ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Elle aurait pu, mais non, c'est pas du tout ça.
Mais c'est malin de poser cette question, genre.
Oui.
J'aurais pu faire la même bourde.
Tristesse, voilà. Ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir. Marionnettise, je suis et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont des couleurs. Je suis le peintre qui les renverse. Et sûrement pas l'inverse. Qui va la tristesse ? Vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin manipulé par vos mains dégoulinantes de désespoir. Que j'ai beau tout faire, tout dire pour la faire partir, elle reste là. Et en fin de compte, je me demande même si elle serait pas là un peu tout le temps. Tristesse est là et... tristesse. Marionnette, on est.
On en prend plein les oreilles aujourd'hui.
J'adore. C'était Zao de Sagazan, Tristesse, et on est toujours dans Culte sur 48FM avec toujours Sandy et Seb. Vous allez toujours bien ?
Oui.
Oui.
Bah super, super.
Moi aussi. Ah bah excellent, super. Excellent.
Allez, tant mieux.
Bah oui, tant mieux, disons que... on arrive dans 10 minutes à la fin de l'interview, mon Dieu. Il est temps, je crois, de te demander comment est-ce qu'on peut retrouver Unique en son genre, et surtout, si on est une école, une bibliothèque ou n'importe quelle organisation qui souhaiterait organiser une lecture, comment est-ce qu'il faut s'y prendre ?
Alors, le plus simple, c'est aller sur le site de la Maison Arc-en-Ciel, donc c'est macliège.be, il y a un petit onglet Unique en son genre, et là, vous avez le dossier de présentation, vous avez la liste des livres qu'on a sélectionnés, il y a une centaine plus ou moins, il y a la présentation des artistes, et il y a la petite adresse mail pour nous contacter. Sinon, c'est simplement unique@macliège.be. Sinon, sur Facebook, uniqueensongenre.be, même chose sur Instagram. Et tous les artistes, toutes les artistes sont sur les réseaux aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à les suivre et à les visibiliser.
Trop bien. Voilà. Excellent. C'est quoi les envies pour l'avenir de Unique en son genre ? Tu parlais tout à l'heure du Canada. Est-ce que vous prévoyez une tournée mondiale
oui,
Unique en son genre ?
Beyoncé rejoint le projet.
Allez
Alors, prochaine étape, ça sera le Festival d'Avignon en juillet.
Allez.
Ouais, c'est pas encore. On peut pas encore l'annoncer, mais on va
dire. Trop tard, c'est fait.
Trop tard,
ce sera le Festival d'Avignon.
Donc, ça sera le Festival d'Avignon. Si je ne me trompe pas dans la date, c'est le 17 et le 24 juillet. Donc, là, on aura 6 lectures au Festival d'Avignon, plus 21 dates. Je ne suis pas sûr sur le nombre de dates, mais une vingtaine de dates de cabaret menées par cette chère Peggy Lee Cooper.
Allez,
avec plein d'artistes là-bas. Donc, ça, c'est déjà la prochaine étape. En août, on dort un peu. Quand même, hein. Et puis on reprend déjà fin août, début septembre. On a 38 lectures prévues avec la Bibliothèque Centrale de Bruxelles dans différentes bibliothèques. Donc on a déjà beaucoup de lectures de prévues entre novembre et décembre. Et normalement, il y a 3 grosses étapes qui arrivent. C'est les lectures pour les seniors, donc que ce soit en maison de retraite et pour les personnes seules qui sont, enfin les personnes isolées. Et là, l'idée, c'est aussi de montrer qu'en maison de repos, bah, il n'y a pas que des personnes blanches, hétérosexuelles. Il y a aussi des personnes LGBT, ça drague sec en maison de repos, qu'on se le dise. Donc, on peut aussi aller parler de genre dans les maisons de repos avec des personnes âgées, avec grand plaisir. Et les personnes déficientes et handicapées, là aussi, nouveau public. Il y a aussi des personnes handicapées qui se questionnent sur le genre, qui sont LGBT, donc aussi les visibiliser. Et puis, dans les dates internationales, on a une grande discussion pour le Canada. Donc là, l'idée, c'est d'aller rencontrer nos équivalents en termes de bibliothèques, d'associations, d'artistes, pour leur proposer ce que nous on fait. Et en effet, comme tu le disais tout à l'heure, c'est que le Canada a 10, 20, 30 ans d'avance sur les questions de genre. Et donc, ils ont des réalités de terrain différentes des nôtres, mais nous aussi. Donc, on peut leur apporter quelque chose. Eux aussi vont nous apporter des choses, que ce soit sur l'inclusivité en bibliothèque, sur comment est-ce qu'on travaille sur l'accueil des personnes trans, des personnes LGBTQIA+, dans les associations. S'inspirer de ça et ramener tout ça en Belgique. Et après, quand ils voudront bien, c'est les inviter en Belgique pour faire la même chose. Mais les Canadiens préfèrent accueillir que d'être accueillis.
Excellent, voilà. Plein de beaux projets. Ouais. Ben, on vous souhaite que le meilleur,
du bonheur,
que du bonheur et que des réussites. Et d'ailleurs, je glisse que je pense que le Bureau international de la jeunesse peut aider les projets qui voudraient aller à Montréal ou dans d'autres pays, rencontrer des projets similaires aux leurs, pour échanger sur les bonnes pratiques et sur comment on fait sa popote, quoi, et comment ça se passe dans chaque pays. Donc, si vous avez un projet en développement et que vous connaissez plus ou moins le même projet à l'étranger qui est plus développé, je pense qu'ils peuvent payer le billet d'avion et une petite bourse sur place pour aider à vivre. Il faut aller voir sur leur site, c'est le Bureau international de la jeunesse.
Et en parlant de projet, mon cher Joe, il paraît que Jacques Eddy a dit que vendredi on faisait la fête.
Eh ben oui.
Eh ben dis donc.
Eh ben oui, dis.
Qu'est-ce qui se passe ?
Inauguration. Oh là là, Jacques Eddy, donc nouveau projet d'atelier temporaire mutualisé en soutien à la création, mené par le comptoir des ressources créatives en collaboration avec la régie des bâtiments de la ville de Liège. Donc ça se passe à l'ICADI, l'ancien ICADI, donc au 76 rue de Franier, qu'on a renommé Jacques Eddy. C'est mon idée. J'aime bien le placer. Donc on l'a renommé Jacques Eddy et on va en faire un grand lieu d'atelier partagé, un lieu avec une salle destinée aux associations qui s'appelle Jacasse, un lieu avec une salle de gym qu'on destine plutôt au théâtre et au sport qui s'appelle la Jacquichane, avec des salles de formation, deux qui s'appellent la Jacompagne et Jaccélère, avec une cour partagée qui s'appelle Jacour, enfin voilà, plein de trucs en Jacques. Et ce vendredi 12 dès 16h30, on vous propose des visites guidées du lieu, donc qui va donc devenir des ateliers d'artistes et un lieu hyper vivant, et des concerts sur le Nocenau avec Simon Francequet, Agnès Botti et Otus. Et aussi, on inaugure le Microsono, qui est la petite sœur du Nocenau, donc le Nocenau qui est ce kiosque assez, assez monumental, assez incroyable, développé par le designer Aaron Baxter Lewis, qui a pondu la petite sœur. Donc il nous fait Microsono, donc Nocenau qui se déplace avec une grosse voiture, et Microsono qui se déplace avec un vélo.
Super.
Voilà.
On vient comme on est, entrée libre.
On vient comme on est, entrée libre, tout le monde est le bienvenu. Petit bar, petite restauration par Anville. Anville qui a toujours un crowdfunding en cours, je crois.
N'hésitez pas.
Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur page Facebook.
Elles ont besoin de vous pour continuer leurs activités.
Exactement, et nous cuisiner des délicieux petits plats. Donc voilà, le rendez-vous est pris ce vendredi 12 mai dès 16h30 au 76 rue de Franier pour fêter Jacques Eddy et Microsono.
Messieurs, juste avant de terminer cette émission, j'ai une petite question. C'est un mot qu'on entend énormément ces derniers temps, un mot qu'on a utilisé aujourd'hui aussi, qui est malheureusement utilisé parfois à tort et à travers. Votre définition à vous en tant que citoyen du mot inclusivité?
Vas-y, Joe.
Démerde-toi maintenant. Alors.
Le mot inclusivité, je ne vais pas dire que c'est le fait simplement de s'ouvrir et d'ouvrir à tous. Je dirais que c'est le fait de se renseigner, d'être renseigné sur plein de sujets différents, sur qui on a en face de soi, qui sont les personnes qui composent la société, quels sont les nouveaux sujets qui arrivent parce qu'on développe... On découvre tout le temps des genres, des questions identitaires, plein de trucs différents qui sont super importants et qui correspondent à des personnes qui existent et qui composent le monde, et on doit composer avec ces personnes. Donc je dirais que inclusivité, c'est pas juste dire tout le monde est bienvenu sur un événement ou sur un truc, c'est vraiment se remettre en question et se dire moi, comment je vis par rapport à ça et comment j'accepte en fait, et comment ça peut entrer en connexion avec ce que mes parents m'ont appris, qui ne connaissaient pas du tout ça à l'époque où j'étais tout petit, et qui ne m'ont peut-être pas inculqué parce qu'ils ne connaissaient pas tous ces sujets-là. Comment est-ce que j'intègre ça à qui je suis, et comment j'accepte chacun, chacune, chaque X, tels qu'ils sont.
La copie est parfaite.
Voilà.
Moi, je compléterais peut-être sur le... aussi des mots dont on parlait tout à l'heure, la bienveillance et le respect. Je pense que inclusivité, pour moi, ça résonne avec inclure. C'est-à-dire, justement, aller... On parle de nouveaux sujets, on utilise des nouveaux termes, on propose de nouvelles choses, on se réapproprie des choses. On ne peut pas être dans notre bulle. On pense toujours que les choses vont mieux, enfin, qu'elles vont vers un mieux parce qu'on est dans notre bulle. Mais en faisant ça, on crée l'exclusivité, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans notre bulle et on ne voit pas le monde extérieur. Le monde extérieur, il y a des belles choses, il y a des choses un peu plus nauséabondes, mais il faut aussi les inclure dans cette bulle-là. Et je pense que l'inclusivité, pour compléter ce que tu disais, elle vient de là aussi, c'est d'échanger avec ces gens, si ils sont, encore une fois, bienveillants et respectueux. Et voilà, de leur proposer un échange. En tout cas, nous, on va vers eux, on propose de discuter avec eux. Et l'inclusion, pour moi, l'inclusivité, c'est ça, c'est inclure des gens qui ne sont pas dans notre bulle, aller les chercher pour leur dire, ben, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de nous invisibiliser, arrêtez de vouloir qu'on n'existe pas, parce que vous le veuillez ou non, on existera. Les drag artistes existeront, ils auront leur place dans les bibliothèques, dans les écoles. Donc voilà, on vous inclut dans notre bulle, donc soyez respectueux et bienveillants envers nous.
Et merci d'avoir fait partie de notre bulle pendant cette dernière heure, Sébastien.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
On se quitte en musique et je vous propose de retrouver des Liégeois d'Akan. Ça fait un moment qu'on ne les a pas entendus sur nos ondes. Je vous propose de se quitter avec Rainbow en espérant qu'il arrive bientôt dans notre cher ciel liégeois. Priez un peu, apprêtez-vous à meubler hein, parce qu'on n'est pas à l'abri. Okay.
La dernière est la bonne.
Let's talk about the things that we bitch can do too. Let's talk about the things that we do. Let's talk about the do's and don'ts. Y'all might all be wrong about what's supposed to be or do in this goddamn world. Let's talk about the do's and don'ts. Y'all might all be wrong about what's supposed to be or do in this goddamn world. Put on a line or a dot. Let's do it or not. Just don't give a fuck. Black or white, blue or pink, dark or light, choose or sink. That's the things we're dealing with. That's the things we're dealing with. So let me bounce like I want. Let me bounce like I want. My spectrum is not binary, but a whole identity. Strong or weak, high or low, right or wrong, lose or win. Let me choose what I want. Let me lose, it's not wrong.
Hey.
Let's talk about the do's and don'ts. Y'all might all be wrong about what's supposed to be or do in this goddamn world.
Can it be an housewife? Can she be the boss? Oh. Can they be lovers? Have the same gender? What do you think about it? Hey. There's no big deal about it. She ain't supposed to be that fat. You gotta be that tall. No, I don't.